Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Antonio Guterres assure du soutien des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a reçu ce dimanche en audience le président Paul-Henri Damiba. À la tribune de l'ONU, le premier ministre par intérim du Mali tire à boulet rouge sur la France, l'accusant d'avoir agressé son pays à de maintes reprises. Abdoulaye Maïga n'a d'ailleurs épargné personne. Plusieurs pays et dirigeants étaient dans son viseur. Indépendance de la justice au Burkina, maître Guy Hervé Kam se dit inquiet. Il dénonce une immixtion du président du Faso dans la sphère judiciaire. Il y a quelques semaines du tour du Faso, comment les étalons se préparent? On en parle en fin d'édition avec notre invité, le cycliste Paul Daumont. Sécurité pour commencer. Selon un nouveau bilan provisoire non officiel, l'attaque de la patrouille mixte composée d'éléments du détachement militaire de Kantiari et de volontaires pour la défense de la patrie a fait 6 morts du côté des forces de défense et de sécurité. L'attaque a eu lieu à Sakouani dans la région de l'Est de Nizungrana.
À en croire les sources contactées par Omega Media, 6 des éléments de la patrouille déclarés portés disparus ont été retrouvés. Les assaillants, dans leur repli, ont emporté 2 véhicules. Quelques heures plus tôt, des sources locales avaient confié à Omega Media que l'embuscade de ce 24 septembre a été tendue par des hommes armés non identifiés dans la localité de Sakouani, dans la province de la Tapoa. Le 12 septembre 2021, cette même localité de Sakouani a été le théâtre d'une attaque qui a visé un convoi de 6 tonnes de carburant au profit d'une société minière. L'embuscade avait fait au moins 5 morts, dont 4 gendarmes et de nombreux blessés.
Denis Zungrana, l'état-major général des armées, a qualifié ce dimanche 25 septembre via un communiqué de malheureuse initiative la descente musclée de militaires suivie d'agressions physiques sur des civils au quartier d'Apoya de Ouagadougou dans la nuit du samedi 24 septembre. L'incident fait suite au décès d'un militaire dans la nuit du 23 au 24 septembre à Ouagadougou dans des circonstances non encore élucidées, a expliqué l'armée tout en condamnant fermement ces agissements inadmissibles qui n'honorent pas les forces armées nationales, la hiérarchie militaire, dont le communiqué a présenté ses excuses aux populations. Elle rassure que des mesures ont été immédiatement prises pour ramener le calme et la quiétude en attendant que les investigations entamées ne livrent leurs résultats. Parlons maintenant de la situation sécuritaire en lien avec la crise humanitaire que vit le Burkina. En marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président du Faso a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il s'est agi de faire le point à mi-parcours de la transition, présenter les actions prioritaires du moment et aussi solliciter l'accompagnement des Nations Unies, a dit au terme de l'entretien la ministre des Affaires étrangères du Burkina, Olivia à Rwanda, que je vous invite à écouter.
De la substance des échanges, et il a même relevé le fait que ce que nous traversons comme situation, et le Burkinabé ne mérite pas cela. Et parce qu'il a même relevé le fait que les Burkinabés avaient accueilli vraiment avec chaleur les réfugiés maliens en son temps, et comme il était représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, il en était vraiment ému. Donc il a aussi manifesté justement son souhait de nous accompagner afin que sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, même alimentaire, nous puissions vraiment faire face à cette situation. Et du coup, il a instruit ses services techniques en la matière vraiment de mettre tout le dispositif en œuvre afin que le Burkina Faso puisse bénéficier vraiment de façon fondamentale du soutien des Nations Unies.
Le chef de l'État, Paul-Henri Damiba, a également eu un entretien avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Des échanges normaux, a dit Olivia Rwamba, la chef de la diplomatie burkinabé, car le Burkina et la Russie ont une coopération vieille de 50 ans.
Il vous souviendra que du temps même de la Révolution, et cette coopération était très active et très dynamique. Et actuellement, il y a eu en tout cas le souhait de davantage renforcer cette coopération-là et la porter à un niveau qui sera vraiment mutuellement bénéfique aux deux pays. Donc c'est vraiment, ça rentre dans le cadre normal des consultations bilatérales qu'on a eues avec beaucoup d'autres pays aussi dans cette foulée-là de la session des Nations Unies.
On reste à l'ONU, à la tribune des Nations Unies à New York. Le premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, a tiré à boulet rouge sur la France, l'accusant d'avoir agressé son pays à de maintes reprises. Suivez un extrait de ses propos.
Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. À la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays.
Sans ménagement, le premier ministre malien par intérim a aussi attaqué plusieurs pays et dirigeants, ni la France qu'il accuse de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, ni le secrétaire général de l'ONU, ni même le nouveau président en exercice de la CEDEAO qu'il accuse de mimer l'ONU, ni le président nigérien Mohamed Bazoum qualifié d'étranger qui se réclame du Niger n'ont été épargnés par les tirs du colonel Maïga. Le président ivoirien Alassane Ouattara a aussi eu droit à une virulente critique sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Les autorités de Bamako ne s'ingèrent pas dans les affaires judiciaires, a insisté Abdoulaye Maïga. Revenons au Burkina pour parler de justice avec cette inquiétude de Maître Guy Hervé Kam. Invité à votre émission Dimanche Politique ce matin, il s'est dit inquiet quant à la volonté des autorités de la transition à apporter des réformes pour une amélioration de l'indépendance et la crédibilité de la justice. Ses explications.
Moi, je suis plutôt inquiet et très inquiet. Vous savez, par exemple, que le président de la transition a écrit au Conseil supérieur pour demander qu'on relève certains magistrats. Mais c'est une immixtion dans la justice que même sous Blaise Compaoré, on n'a pas vu. Ça se faisait de façon plus soft. Mais là, c'est quand même très grave. Et ça m'étonne d'ailleurs que les syndicats de magistrats n'aient pas réagi à cela. Parce que si on dit séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, autant le judiciaire ne va pas demander le départ d'un ministre, d'un haut commissaire ou d'un gouverneur, autant l'exécutif, qui qu'il soit, n'a pas le droit de demander qu'on relève certains magistrats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque le chef de l'État, qui a constitutionnellement le pouvoir d'avoir des échanges directs avec le Conseil supérieur de la magistrature, laisse ce cadre-là pour s'en prendre publiquement à la justice. Dans son discours du 4 septembre, je pense qu'il y a un problème.
La justice doit aller au-delà de nos volontés individuelles pour une justice plus efficace. Maître Kam préconise que la composition du Conseil supérieur de la magistrature soit revue pour prendre en compte d'autres acteurs, outre les magistrats. Nous l'écoutons.
Le problème aujourd'hui, ce sont la garantie, la protection du juge, en fait, contre lui-même. Ça veut dire contre le corporatisme. Et parce qu'aujourd'hui, les magistrats ont absolument la même mise sur leur propre carrière, sur leur propre discipline. À tel point que vous pouvez assister à une situation où le Conseil supérieur va prendre des sanctions contre des magistrats, ces magistrats vont faire des recours et que des magistrats qui ont siégé au Conseil supérieur de la magistrature se retrouvent encore à juger cette affaire et donc à annuler la procédure. Aujourd'hui, les procédures sont annulées. Qu'est-ce qu'on fait? Qui reprend la procédure? Il faut encore le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je pense que la justice dans un pays n'est pas forcément celle que veulent les magistrats. La justice dans un pays est celle que veulent les citoyens de ce pays. De ce point de vue-là, s'il y a une réforme fondamentale à faire aujourd'hui, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur doit être composé majoritairement de magistrats. Mais après, il faut d'autres regards dans le Conseil supérieur de la magistrature pour permettre aussi d'éviter le corporatisme.
La rediffusion de votre émission Dimanche politique, c'est ce soir à minuit sur la 103.9 Ouaga et la 104.7 Bobo Dioulasso. Dimanche politique est aussi disponible sur notre page Facebook Radio Omega officielle. La culture de l'excellence est un gage pour le travail bien fait et un impératif pour le développement. Et le lycée de technique appliquée, LTA, l'a bien compris, en effet, dans sa quête permanente d'excellence dans la formation des cadres de son personnel enseignant et de ses élèves. Le dit lycée a organisé, dans la soirée du 24 septembre, les 12e éditions de la Nuit de l'excellence après celle de 2021. Le compte-rendu de cette nuit avec Moumouni Tamboura.
Inciter les enseignants et les élèves à plus de rigueur dans l'exercice quotidien de leurs tâches est le principal objectif que visent les responsables du lycée de technique appliquée. Ce sont 6 élèves qui ont reçu les honneurs au cours de cette cérémonie. Cette reconnaissance est une fierté pour Kader Ouedraogo qui a reçu une attestation d'honneur pour sa contribution à la promotion de l'excellence au LTA.
Vraiment, je suis content. Donc, je remercie le bon Dieu. Je ne peux que dire merci à mes professeurs, à tous ceux qui nous ont soutenus pour l'atteinte de cet objectif.
Cette 12e édition a connu l'accompagnement de certaines structures comme la Caisse nationale de sécurité sociale qui voit en cette jeunesse une graine pour le développement. Justin Kienou est le parrain.
Et notre pays a besoin des excellents pour prospérer sur le plan international, être dans le concert des grandes nations. Donc c'est pourquoi nous avons accepté de parrainer cette manifestation. Parce que nous sommes sûrs que parmi ces lauréats, il y aura des travailleurs et des employeurs qui feront la fierté du Burkina Faso.
Afin de renforcer les capacités des élèves en fin de formation, un stage de perfectionnement leur est soumis par la société énergétique Nelson Sola. Baudouin Yagibou.
Dans le partenariat que nous avons avec le lycée des techniques appliquées, il est toujours prévu pour nous de prendre des élèves au sein de l'école et de les placer en stage dans notre équipe technique. Ça les permet de comprendre un peu l'évolution des énergies renouvelables, de savoir ce que c'est qu'un dimensionnement, une installation, de pouvoir faire la part des choses entre une batterie d'une technologie donnée à une autre batterie d'une technologie donnée.
La réussite scolaire et l'excellence doit être un mode de vie, suggère le directeur au corps professoral, administratif et élève. Le lycée de technique appliquée, créé en 2003, est un établissement d'enseignement secondaire, technique, commercial et industriel, avec pour objectif la formation initiale et l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
L'invité du jour.
Le Tour du Faso débute dans quelques semaines et déjà les étalons affûtent leurs armes. Ils sont sur tous les terrains. Ils viennent de rentrer de la Côte d'Ivoire où ils ont été deuxième au classement général autour de Côte d'Ivoire et remporté le Grand Prix de la ville d'Abidjan. Paul Demont et ses camarades cartonnent fort. Nous l'avons rencontré pour vous. Dans cet entretien, il nous parle aussi de son nouveau club au micro d'Ibrahim Baïli.
Vous étiez en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale pour participer à ce tour de Côte d'Ivoire. 3 secondes, hein, c'est ce que vous a manqué pour remporter le maillot jaune. Il y a eu énormément de choses autour de cette compétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, alors effectivement, on est rentré avec l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça du tour de Côte d'Ivoire. On est rentré à la maison avec une deuxième place au classement général, comme vous l'avez dit, à 3 secondes du maillot jaune. Également 3 étapes dans notre poche, et ainsi que le Grand Prix de la ville d'Abidjan. Donc voilà, c'est un bilan mitigé. On est quand même content de ce qui s'est passé là-bas, parce que voilà, on était vraiment attendu puisqu'on avait obtenu le titre en 2019. Donc c'était notre tour sur le Tour de Côte d'Ivoire cette année. Donc forcément, il a fallu prendre les responsabilités. Bon, malheureusement pour nous, on a dû échouer à la deuxième place, mais on a pu se contenter avec de belles victoires d'étape et vraiment une belle bataille avec les différentes équipes qui étaient présentes là-bas.
Et puis, le clou, hein, c'est cette victoire de la ville d'Abidjan. Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez spécifiquement préparée?
Oui, ça a été un objectif, d'autant plus que voilà, on a échoué encore une fois, comme je l'ai dit, à notre mission de revenir avec le maillot jaune. Donc la nuit du samedi au dimanche a été vraiment très courte pour nous parce que voilà, ça a été difficile à digérer. Voilà, juste 3 secondes de l'objectif, on se dit que c'est vraiment infime, mais c'est aussi un fossé énorme. Donc du coup, on était vraiment motivés à remporter ce Grand Prix d'Abidjan. voilà, au lendemain de la fin du Tour de Côte d'Ivoire, où j'avais justement échoué encore à la deuxième place pour la victoire d'étape à la photo finish. Donc vraiment, on a mis en place une stratégie avec l'équipe pour au moins repartir sur une bonne note et un peu oublier notre échec sur le Tour de Côte d'Ivoire.
Paul Domon, est-ce que on peut dire que aujourd'hui vous êtes au summum de votre art?
Bon, je pense et j'espère que j'ai encore de la marge de progression. Je le sens, on va dire, dans mes jambes et dans la tête. Je sais que je peux peut-être encore devenir encore un peu plus fort que ça, mais il faudra à ce moment-là, alors pour moi, partir entre guillemets du Burkina Faso, c'est-à-dire intégrer des équipes à l'extérieur, comme le font par exemple les footballeurs professionnels qui partent jouer dans les championnats en Europe, pour me permettre de me frotter, on va dire, quotidiennement aux meilleurs coureurs de la discipline. Et voilà, participer à des plus grandes courses encore. Voilà, donc je pense que c'est tout ça qui va me permettre encore de franchir un palier pour essayer, voilà, d'atteindre le maximum de mes capacités.
Et c'est déjà, ça profile à l'horizon.
Oui, en effet, la nouvelle est tombée donc le mois passé. J'ai eu la chance d'avoir eu un contrat en tant que stagiaire dans l'équipe Continental Pro Touch, qui est une équipe sud-africaine. Voilà, donc je suis sous contrat avec eux en termes de prêt jusqu'à la fin de la saison pour me permettre justement de participer déjà à des compétitions de niveau continental et international. C'est une manière pour eux de me mettre au défi, de jauger un peu mon niveau pour peut-être voilà, me proposer un contrat d'ici la saison prochaine pour voilà, m'engager avec eux. Mais pour l'instant, c'est juste un contrat de stagiaire, c'est-à-dire que je respecte toujours mes obligations avec mon club, l'AS Bessel, qui est présent ici à Ouagadougou.
Alors, pendant que vous serez sous contrat stagiaire, est-ce que pour le championnat national, vous pourrez revenir courir pour l'AS Bessel, par exemple?
Oui, tout à fait. Bon, ça va dépendre de la nature du contrat. Voilà, je sais qu'il y a certaines possibilités justement d'avoir deux clubs. Donc à ce moment-là, il va falloir se préparer à l'avance, trouver un terrain d'entente avec les deux clubs, les deux formations, pour justement pouvoir revenir participer peut-être à quelques courses avec le maillot de l'AS Bessel. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai toujours disponible pour l'équipe nationale. Voilà, les clubs européens qui ont l'habitude de recruter des coureurs africains savent à quel point justement les sélections en équipe nationale sont importantes pour les coureurs africains. Donc voilà, ils nous permettent effectivement de participer librement à nos regroupements, pardon, avec l'équipe nationale. Ce qui nous permet aussi d'avoir, comme on le dit dans le jargon, d'avoir des pros au sein de l'équipe. Donc voilà, ils savent que c'est très important. Donc franchement, normalement, il devrait y avoir carte blanche dessus.
Alors déjà, hein, le Tour du Faso profile à l'horizon. Mentalement, comment est-ce que vous le préparez?
Mentalement, il va falloir pouvoir gérer la pression. La pression, elle commence déjà à monter petit à petit. Voilà, on le voit à partir d'aujourd'hui, on est que mi-septembre, mais voilà, les médias ont commencé à en parler déjà. C'est dans un mois et demi. Donc voilà, la pression, elle s'installe petit à petit. Mais bon, je peux dire que j'ai de la chance, j'en suis déjà à mon troisième Tour du Faso. Donc j'ai eu l'occasion aussi de participer à des courses internationales. Je suis entouré avec une équipe compétente au niveau de l'équipe nationale et au niveau de mon club qui me permettent, voilà, d'aborder ce genre de grosses échéances le plus sereinement possible. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que dans la tête ça va, la gestion du stress ça va, mais maintenant ça va être la gestion du physique. Voilà, on va essayer de participer à beaucoup de compétitions pour essayer de vraiment se mettre en forme, mais aussi ne pas en participer de trop aussi pour ne pas arriver aussi épuisé autour du Faso, parce qu'on sait que c'est une compétition de 10 jours, et 10 jours, presque 1200 km, il faut avoir suffisamment de réserve aussi pour être actif sur les 10 jours.
C'était l'invité de la rédaction.
La prochaine édition du Tour du Faso, la 34e, se tiendra du 10 au 20 novembre. Le cycliste Paul Domon répondait aux questions d'Ibrahim Bailly. C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebego. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à l'écoute de Radio Méga.
Radio Méga, l'info en direct.